Depuis le début du mouvement sur la réforme des retraites, si on mettait bout à bout tous les papiers ou les lancements qui ont commencé par semaines décisives, on pourrait probablement faire un ruban qui irait de République à Nation et même y découper des banderoles. 33 jours de grève, une négociation qui est censée repartir demain au sujet de la pénibilité, mais sur le fond, on en est où? La carte de l'usure semble jouer des deux côtés, elle est aussi à double tranchant pour le pouvoir qui veut cette réforme, comme pour la CGT qui mène la contestation. Le premier qui cédera ne sera pas à la fête. Alors qui peut bouger sur quoi? Le principe des points, non, pour le gouvernement apparemment. En tout cas, l'âge pivot, on dit que oui, et puis il faut voir, en fonction de certaines pénibilités justement, peut-être. Les régimes spéciaux SNCF RATP sont apparemment la vraie ligne rouge, le point symbole. Côté CGT, ce qu'on entend surtout, c'est non à la réforme et rien d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? Justement, une alternative, justement. Qu'est-ce qui se passe avec la CFDT qui reste sur sa position contre l'âge pivot, mais met sur la table cette fameuse conférence de financement? Le compromis sans compromission, apparemment c'est compliqué. Emmanuel Macron est-il empêtré dans sa réforme? Les syndicats sont-ils empêtrés dans la motivation de la base? Qui a le plus à perdre ou à gagner? On est reparti pour un tour et soyez les bienvenus au téléphone sonne.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et Stéphane, c'est vous le premier. Soyez le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y Stéphane, on vous écoute.
Oui, voilà, je voulais vous faire part d'une réflexion parce que bon, moi j'habite Grenoble, j'ai participé à quelques manifestations qui ont eu lieu et en discutant avec les gens que j'ai rencontrés, je me suis aperçu que le mouvement de contestation il va bien au-delà d'une contestation de la réforme des retraites et des régimes spéciaux qui au demeurant ne représentent que 6% des régimes de retraite. Hein. Ce que j'ai ressenti vraiment, c'est une protestation contre un système qui broie les individus. Quoi. J'ai rencontré des gens qui étaient fatigués, qui n'en pouvaient plus, des infirmiers, des ouvriers, des cadres, des médecins, des pompiers, qui se sentaient démunis contre l'abandon du service public. Comment dire, moi, mon ressenti, c'est que dans ces manifestations, on est vraiment un peu finalement dans l'esprit des gilets jaunes, quoi, avec la mise en cause d'un système qui recherche le profit, l'accaparement des richesses et la non-redistribution équitable des richesses.
Mais du coup, comment on en sort? Pardon de vous poser la question à vous, parce que vous n'êtes ni politique, ni syndicaliste, ni en responsabilité, Stéphane, mais quand on ne fait que décrire cette colère-là, en fait, à un moment, on en sort comment?
On en sort peut-être par des... De toute façon, il faut qu'il y ait des mains tendues. Hein, et il me semble que ça fait plus d'un an, ça fait plus d'un an depuis le début du mouvement des Gilets jaunes que la main tendue n'a pas rencontré de réponse. On a un gouvernement qui est inflexible. Et à mon avis, de toute façon, il y a des gens qui, maintenant, ça fait un mois qu'ils sont en grève, ils n'ont plus rien à perdre. Mmh. Donc il faudra bien qu'il y ait une forme de raison qui revienne de la part du gouvernement, me semble-t-il. Hein.
Et on verra ça, Stéphane, évidemment. Et pour répondre à votre, non pas question, mais vos interrogations, vos remarques ce soir et à toutes celles qui viendront, évidemment, Rémi Bourguignon est là, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur enseignant à l'Institut d'administration des entreprises à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonsoir Raymond Soubi, président de la Société de Conseil et Stratégie Sociale Alixio. Vous êtes aussi l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes chef du service politique de France Inter. Il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que nous dit Stéphane. Ici, d'abord, quelque chose qu'on a pu déjà constater sur le fait que dans les manifestations, ça va parfois bien au-delà de simples revendications autour des retraites. Et puis, la comparaison avec le mouvement des Gilets jaunes, qui était précisément, Raymond Soubi, ce que les syndicats peut-être voudraient éviter. En tout cas, se retrouvent, eux, centrales syndicales, face à des gens dans les manifestations qui ont peut-être plus un esprit tel que les Gilets jaunes l'ont apporté, ce qui n'est pas difficile, ce qui n'est pas facile à canaliser, on va dire.
Oui. Ce que notre auditeur vise dans ce qu'il nous dit là, ce sont surtout les manifestations, les journées de manifestation. Il y a eu deux journées de manifestation principales jusqu'à présent, il y en a une troisième qui est jeudi. Et puis d'un autre côté, il y a les mouvements de grève, le conflit social proprement dit. Je crois que le conflit social proprement dit, il est le fait des personnes qui sont concernées directement ou qui s'estiment concernés et négativement par la réforme des retraites. Alors, les régimes spéciaux, on pourrait égrener toute une série de corporations parce qu'on bascule leur situation d'une situation qu'ils connaissent plus ou moins bien à une situation qu'ils ignorent totalement. Et ce voyage-là les inquiète. Et mais là, bon. Dans les manifestations, en revanche, s'agglutinent en quelque sorte aux grévistes des personnes qui ont pu manifester lors des mouvements des Gilets jaunes, et pour les mêmes raisons, qui sont des protestations plus globales contre la société, contre la mondialisation, contre le capitalisme. Mais il reste que le mouvement auquel nous assistons est quand même, je crois, très différent du mouvement des Gilets jaunes, parce que il est quand même structuré par les syndicats, même s'ils ont encore une influence limitée, alors que la caractéristique du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il n'était pas structuré. Ça fait quand même une vraie différence.
Alors, on est d'accord avec ça, Rémy Bourguignon, sur la structuration, en tout cas, d'un mouvement ou d'un autre. Est-ce qu'on a réellement vu des centrales syndicales reprendre la main? Les ont-elles là, le lundi, au moment où on se parle? Ou la base, elle, est-elle beaucoup plus volatile, beaucoup plus Gilets jaunes? En fait, c'est le sens un peu aussi de la question, Stéphane, de ce que j'en comprends. Beaucoup plus Gilets jaunes que même les centrale le souhaiterait pour essayer de trouver au moins un début d'issue.
Non, on a quand même le sentiment que les syndicats ont repris globalement la main sur sur la contestation, mais simplement quand vous parlez de centrales, c'est compliqué. Les centrales, c'est aussi des gens très différents. Donc, quand vous prenez une seule étiquette syndicale, ou la CFDT, ou l'UNSA, ou la CGT, eh bien, c'est un ensemble de fédérations avec des intérêts qui ne sont pas toujours convergents au sein même des organisations syndicales. Donc, effectivement, c'est plutôt les syndicats, mais quand on dit les syndicats, c'est quelques fédérations syndicales aussi qui ont un poids particulièrement important sur les mots d'ordre que peuvent porter les confédérations.
Yael,
après, il y a des méthodes effectivement qui réémergent après 95. Sud, qui est né des mouvements de 95, c'est un peu les gilets jaunes de 95. Ils sont nés justement d'une contestation de leur hiérarchie syndicale qui n'allait pas assez loin selon eux. Et ils sont nés Sud, structurés aujourd'hui quelque part d'une forme de contestation du syndicat traditionnel. Aujourd'hui, le grand malheur peut-être du mouvement social sur ces retraites, pour ceux qui le poussent, qui le soutiennent, c'est que le privé n'a pas embrayé sur le mouvement social. Très peu. Entre le 5 et le 11 décembre, dans les deux journées clés de mobilisation, le privé ne s'est pas beaucoup joint aux manifestations. La tentative là pour samedi prochain de le faire en deux temps, une jeudi mobilisation classique intersyndicale, c'est d'associer samedi les gens du privé, voire les gilets jaunes, à ce mouvement social et syndical qui, pour l'instant, effectivement, traite surtout de gens qui sont déjà installés dans des statuts en termes de fonctions publiques ou en termes de métiers beaucoup plus pérennes. C'est tout un public qui est différent, qu'ils vont essayer de capter samedi prochain, parce qu'on ne pose pas de journée de grève le samedi, on peut peut-être plus facilement se mobiliser.
Alors, est-ce qu'il y a une marge, on parlait tout à l'heure en introduction, Raymond Soubi, de la marge de négociation? On a entendu beaucoup de choses aujourd'hui dans la presse, on a entendu parler d'un âge pivot qui pouvait être modifié en fonction de la pénibilité, on a entendu un malus qui pourrait ne pas être un malus perpétuel, mais au contraire, des gens qui pourraient revenir dans les clous, en quelque sorte, s'ils partent avant 64 ans. Est-ce que tout ça, est-ce qu'il y a une vraie marge de négociation qui existe? Est-ce que vous avez le sentiment que, de ce point de vue-là, il se passe quelque chose?
D'abord, vous avez deux sujets très différents. Vous avez le sujet de l'âge pivot que vous venez d'évoquer, et puis vous avez le sujet du passage du système actuel pour des corporations au système futur, qui est la raison des mouvements sociaux qui aujourd'hui se produisent. Autrement dit, les mouvements sociaux dans les régimes spéciaux et ailleurs ne sont pas sur l'âge pivot.
On est d'accord. On ne sait pas d'ailleurs si reparler de l'âge pivot n'est pas sûr que ça videra la rue.
Voilà.
Loin de là. Ça,
alors, quand même, pour répondre à votre question, c'est un signal politique. C'est l'idée, on va tendre la main à la première centrale syndicale française qui est réformée. Donc c'est plus un geste politique ou de politique sociale qu'un geste qui a pour objectif d'éteindre le conflit, parce que ce geste-là n'éteindra naturellement pas les conflits là où ils ont éclaté.
Alors, ça retourne l'opinion peut-être, en fait, c'est ça le principe.
Il peut l'user, c'est une arme d'usure qu'utilise le gouvernement.
Et c'est une arme qui permet, dans les enquêtes d'opinion, de montrer que plus de gens l'approuvent, etc., etc. Donc c'est une arme politique au sens quasiment étymologique du mot. Alors, est-ce qu'il y a des marges de manœuvre pour répondre à votre question? Bien entendu. On peut inventer ici, autour de cette table, plein de marges de manœuvre. Vous pouvez avoir un malus comme ça a été proposé, qui ne dure que 3 ans et pas l'ensemble de la carrière. Vous pouvez avoir un malus fort, vous pouvez avoir un malus faible. Vous pouvez avoir des gens que vous excluez du système de l'âge pivot. Nous pouvons tout inventer. Et bien entendu, il va sortir des sujets comme ça. Il pouvait même y avoir une solution par laquelle on mélange l'âge pivot à d'autres modalités de recettes, comme une accélération de l'allongement de la durée de cotisation ou de prendre une partie de l'argent qui est dans le fonds de réserve des retraites. On peut faire un mix. Donc, le gouvernement, il a vraiment des marges de manœuvre. Son seul problème par rapport à Laurent Berger dit, il faut en discuter. Donc, le gouvernement va sûrement accepter, puisqu'il a déjà dit, si vous me proposez une solution meilleure que l'âge pivot, je suis d'accord. Donc, il va en discuter. Est-ce que la probabilité que de cette discussion sorte une solution claire est à la hauteur de... Franchement, ce serait un pur miracle. Bon, ce qui veut dire que le risque que prend le gouvernement, on voit bien l'avantage d'accepter, le risque, c'est qu'il se retrouve dans 6 mois avec le même sujet qui n'aura pas été réglé et plus loin dans le quinquennat.
Rémy Bourguignon, je vous voyais réagir.
Oui, non, mais je partage complètement. Cette histoire de dire on pourra discuter dans un deuxième temps, c'est une manière de déconnecter finalement les deux sujets. Et effectivement, on donne des gages à la CFDT, à Laurent Berger, qui depuis le début a dit il faut absolument déconnecter la question de la réforme systémique, de la question des paramètres.
Il propose cette fameuse conférence de financement.
Voilà. Et donc le financement, on en parlera plus tard. Mais ça va inquiéter de toutes parts. Donc c'est un peu difficile de savoir ce que ça va produire. Ça va inquiéter du côté de la majorité qui vont dire mais finalement, est-ce que c'est pas le gouvernement qui est en train de reculer, de renvoyer à plus tard la question de l'équilibre financier. Donc on a entendu des gens de la majorité commencer à exprimer du scepticisme sur cette idée-là. Et puis ça peut inquiéter également du côté des organisations syndicales en disant mais en fait, ce sera une manière d'accepter l'âge pivot un petit peu plus tard, mais on aura sauvé la face en déconnectant les deux sujets.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que là, le moment que vit le gouvernement aujourd'hui dans cette semaine de rentrée vraiment sociale, c'est de très vite arriver à ce compromis qu'a exigé Emmanuel Macron de son Premier ministre. Donc l'idée de l'âge pivot, d'avancer sur l'âge pivot avec Laurent Berger...
Il faut un compromis rapide, fermer les guillemets.
Rapide. Mmh. Donc si on déconnecte les deux, c'est pas ce qui a été dit au Conseil des ministres aujourd'hui. Hein. Par la porte-parole, elle a dit la feuille de route, c'est de pas faire le paramétrique sans le systémique et vice-versa. Il faut continuer à coupler les deux. Mais lâcher du lest sur la CFDT, à court terme, puisqu'on est dans la guerre d'usure, un mouvement social que le gouvernement veut surmonter, c'est quand même l'une des clés. Et dans la majorité, on estime aujourd'hui que les questions de pénibilité ou de retraite progressive, les avancées ne seront pas forcément décisives. Que la question pivot, c'est le cas de le dire, c'est l'âge pivot. C'est là-dessus que le mouvement peut ensuite se déliter parce qu'on casse le front syndical. Je parle au nom comme le gouvernement le dit aujourd'hui en off. Hein. On casse le mouvement syndical, donc on réduit aussi le soutien au mouvement social. Et donc en janvier, c'est plus la même histoire. Et est-ce que vous recommencez une mobilisation similaire sur une conférence de financement à l'été? Rien n'est moins sûr.
Ouais, mais moi, j'ai l'impression que cette stratégie-là, elle commence à dater, en fait. On a l'impression qu'ils l'ont essayé. Ils l'ont essayé même depuis on va dire, le 15 décembre ou à peu près dans ces eaux-là, non? D'essayer de jouer un peu
pas à ce point-là.
La division syndicale.
Pas avec un Richard Ferrand qui sort du bois un dimanche soir dans le Parisien en disant on peut faire un malus transitoire, comme vous disiez, de 2 à 3 ans, provisoire. Ça, c'est extrêmement nouveau et ça veut dire qu'il y a eu accord avec Emmanuel Macron. Richard Ferrand ne parle pas de nulle part, tout seul. Il sait ce qui se passe dans la majorité, qui est très sensible aux arguments de la CFDT. Et ils savent aussi que s'il ne lâche pas maintenant, il ne faut pas des concessions maintenant, de toute façon, ils prendront le sujet de l'âge pivot en boomerang au Parlement lorsque les députés En Marche saisiront du projet de loi fin février et qu'ils pourront amender. Alors si c'est pour perdre du temps maintenant et avoir la majorité qui de toute façon frondera au moment du débat parlementaire, à quoi bon attendre?
On a cette question de Patrice qui est en Lorraine et qui nous dit, le gouvernement ne tente-t-il pas de faire passer sa réforme des retraites en s'appuyant finalement sur des accords de branche ou d'entreprise et en tentant en tout cas de manipuler les tensions corporatistes? Est-ce que en donnant une satisfaction aux policiers d'un côté, à d'autres de l'autre, aux pilotes, aux hôtesses de l'air, est-ce qu'il arrive là à délayer aussi ce front syndical ou pas, Raymond Soubi?
Il arrive pas tellement à délayer le front syndical au plan national, mais il arrive à déminer des situations réellement ou potentiellement exclusives.
Policiers, gendarmes,
dans des
etc.
secteurs. Au fond, il se passe... Comme tout se passe, comme si avait été préparée une réforme finale, donc le dernier jour, voilà ce qu'est la réforme, c'est là-dessus qu'a travaillé Jean-Paul Delevoye, et qu'il n'y a pas eu assez de réflexion sur les voies de cheminement pour passer d'un système de corporation au système final. Et donc, le gouvernement essaie de désamorcer les risques potentiels corporation par corporation, mais avec des solutions curieuses.
Je vais sans dire combien ça coûte, c'est comme
alors,
ça
le problème. On viendra après, effectivement, parce que là aussi c'est la question qui vient. Pardon, finissez, monsieur Soubi.
Avec, pour ne prendre qu'un exemple, les contrôleurs de navigation aérienne. Nous adorons tous les contrôleurs de navigation aérienne. Bon, mais ce sont les gens les plus puissants du monde. Ils ont le monopole, ils peuvent arrêter le travail, tout s'arrête. Or, qu'est-ce qui a été dit au contrôle de la navigation aérienne ? On ne change rien à votre situation. Bon, et puis il y a tous les ordres d'exemple, leurs enseignants, etc. Donc défilent les corporations avec chaque fois des solutions différentes.
Avec un âge pivot à 56 ans pour les contrôleurs aériens.
Qui sont des concessions, qui sont des concessions sur le fond de la réforme et ou qui sont des compensations financières. Par exemple, sur les enseignants, ce qui fait qu'en au bout du bout, sans doute le conflit sera désamorcé, mais on n'aura pas un système universel unique, on aura pendant très très longtemps de grandes différences et on aura un coût de la réforme qui sera sans doute
important.
Alors
on va y venir à ce coup, une espèce de retraite à la découpe, au fond, de réforme des retraites à la découpe. Rémi Bourguignon, je vous voyais demander la parole et puis...
Peut-être pour montrer que finalement ces deux leviers fonctionnent ensemble. En réalité, céder sur l'âge pivot ou trouver un compromis sur l'âge pivot ne peut pas suffire pour les organisations dites réformistes, pour rappeler un certain nombre de leurs fédérations à cesser le mouvement. Donc il faut bien également lâcher sur ces régimes spéciaux pour que les dirigeants des syndicats réformistes puissent dire à leur base, vous voyez, vous avez obtenu une partie, nous on a obtenu l'âge pivot, donc il y a peut-être un compromis qui se dessine. Donc c'est juste montrer que les deux fonctionnent ensemble.
Allez-y, Yael, après moi j'ai une question subsidiaire.
Mais en faisant cela, ils ouvrent un autre front, c'est sur la droite, évidemment, puisque Emmanuel Macron et Édouard Philippe veulent absolument solidifier ce socle électoral de droite pour 2022, on en a beaucoup parlé ici, et ce faisant, donc en donnant quitus à de multiples corporations, ils prêtent le flanc à la critique. On verra ça demain après-midi et demain soir au Sénat puis à l'Assemblée, puisque les Républicains lancent deux débats sur les retraites pour essayer, face à Laurent Pietraszewski, le monsieur retraite, de montrer, de démonter la réforme et de montrer que finalement, il donne quitus à tout le monde sans dire combien ça coûte, et donc ce n'est plus une réforme de droite. Voilà à quoi il s'expose aussi en boomerang.
Est-ce que, tiens, puisqu'on est dans la pure politique, Yael, qui a le plus à perdre, j'ai envie de dire, Emmanuel Macron s'il recule un peu trop fortement, ou la CGT qui est en pointe de la contestation si elle recule aussi, parce qu'on a l'impression que d'un côté comme de l'autre, on joue une bonne partie de sa peau, en fait, dans ce qui se passe là, y compris cette semaine.
Alors, pour Emmanuel Macron, de toute façon, considérer qu'il y a un paravent à Matignon, que le Premier ministre est le fusible, ça je crois que c'est d'une autre époque. Hein, aujourd'hui, Emmanuel Macron incarne tellement son quinquennat et les réformes qu'il a portées dans la campagne de 2017, que c'est lui qui à la fin trinquera s'il y a un problème politique qui se pose. Édouard Philippe peut-être, mais surtout, surtout Emmanuel Macron. La CGT, elle peut toujours s'en sortir. Philippe Martinez pourra dire, si jamais il y a un accord qui se passe avec la CFDT prochainement sur l'âge pivot avec Laurent Berger, pourra toujours dire, moi j'étais au bout du conflit, le plus long depuis 68, hein, j'ai tenu, et c'est Berger qui m'a trahi. Pourra toujours s'en sortir comme ça, Philippe Martinez. Mais après, la question c'est, est-ce qu'en refusant tout, en demandant le retrait, en obtenant rien, on est crédible ? Question.
Raymond Soubi, une question ?
Je crois que nous montrent les enquêtes aujourd'hui ? Elles nous montrent que personne n'est gagnant.
Non.
Je dirais même que tout le monde est perdant. À la fois les politiques, Emmanuel Macron, son gouvernement, les syndicats, que les syndicats soient la CGT ou qu'ils soient... Tout le monde est perdant. Donc personne ne gagne aujourd'hui politiquement. Quant au clivage en fonction des tendances politiques, du soutien à la réforme, on voit très bien que c'est l'électorat d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle et de François Fillon qui soutient plutôt le gouvernement et que tout le reste du corps électoral est contre.
Ah bah oui, l'axe est très large, hein. RN, LR, les gauches qui ont créé un comité de liaison interparlementaire, intergroupe qui va se réunir mercredi soir... Voilà,
Et avant qu'on vienne au standard, il y a la question classique qui revient à chaque fois qu'on fait un téléphone sonne sur ces sujets-là, et Dieu sait qu'il y en a eu depuis le 5 décembre, l'opinion n'a pas basculé non plus, ni dans un sens ni dans l'autre. Alors c'est parfois un peu fluctuant, ça peut bouger à plus ou moins 10%. On sent bien qu'il y a eu des moments qui étaient plus difficiles, donc des moments d'agacement où le sondage bougeait, mais de basculement réel, Rémi Bourguignon, que je sache, il n'y a pas eu dans l'opinion.
Non, il n'y a pas eu. On est à une... Alors suivant les sondages, une petite majorité ou une petite minorité qui soutient. Non, ça bascule pas. Alors les sondages sont toujours extrêmement difficiles à interpréter. On se dit que, comme toujours, avec le temps, l'agacement devant la grève, eh bien l'opinion va finir par trancher, par dire soit c'est le gouvernement qui nous a mis dans cette situation, soit eh bien ce sont les organisations syndicales, elles ont tort. Pour le moment, on le voit pas. Donc ça veut dire que ce sont peut-être des petite majorité, mais ça veut dire que c'est très polarisé, peut-être beaucoup plus solide qu'on ne l'a pensé, c'est pas forcément de l'hésitation.
La carte de l'usure marche dans tous les sens et elle est effectivement un double tranchant pour chacun. Bonsoir Christiane.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue Christiane.
Merci. Moi, ma réflexion était la suivante. Jusqu'à présent, donc Emmanuel Macron nous a bien montré que les corps intermédiaires donc n'étaient pas forcément sa tasse de thé. On a aussi quand même constaté que pendant ces mouvements, Laurent Berger était un petit peu dépassé par sa base. Je me demande si la solution n'est pas simplement, et c'est ce que peut-être le gouvernement va finir par mettre en œuvre, se passer et de Laurent Berger et de tout ce petit monde qui commence à s'agiter. Parce qu'aujourd'hui, chacun y va de sa petite idée. Est-ce que Emmanuel Macron ne va pas simplement décider qu'il y va et puis c'est tout? Voilà.
Est-ce qu'il peut
avec ou sans Berger?
Merci beaucoup, Christiane, pour votre question. J'entends d'ici ce que ça pourrait faire comme résultat s'il décidait de se passer de tout le monde, Raymond Soubi. C'est même le reproche qu'on lui a fait pendant de nombreux mois.
Je crois que ce ne serait pas très bien vu. Et certains reproches lui ont déjà fait en ce sens. Non, je crois que dans tout conflit, l'essentiel, c'est quand même de discuter. Bon. Pour arriver ou non à un accord, mais de discuter. On est quand même dans un pays civilisé, et il vaut mieux discuter, il vaut mieux que les corporations soient représentées. Donc, je crois qu'il faut discuter. D'ailleurs, des discussions, il y en a tout le temps. Dans tous les régimes spéciaux et les corps, il y a eu des discussions tous ces derniers jours.
Il y en a tout le temps, mais en même temps, est-ce qu'il y a eu une vraie trêve des confiseurs quand même? Est-ce que c'est pas dans un conflit pareil, très long, de s'arrêter, de négocier pendant aussi longtemps, pendant quasiment les 15 jours de...
Je pense qu'il y a eu des, il y a des négociations constantes dans les endroits où il y a des conflits sociaux déclarés, régimes sociaux, et puis les différents endroits qui sont chauds. Il y a constamment des discussions, même officieuses, mais vous savez qu'en matière sociale, les discussions officieuses et qui préparent les discussions officielles sont parfois plus importantes, celles-ci, que celles-là. Donc, ça ne s'est vraiment jamais arrêté. Le problème que nous avons, c'est que le gouvernement avait des idées très claires sur l'état final de la réforme, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, comment ça se passe. Et Jean-Paul Delevoye a beaucoup travaillé là-dessus, mais qu'on n'a pas assez travaillé sur la manière de passer de chaque situation actuelle, de chaque corporation, vers le système final. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est en jeu, et c'est ça que, comme ça arrive très tard, est difficile.
Alors, Rémi Bourguignon, moi, pardon de ma naïveté, mais pour rebondir sur ce que vient de dire Raymond Soubi, moi, je me demande, qu'est-ce qu'on a fait pendant 18 mois, alors? Si on a parlé que dans 10 ans, voilà à quoi ça doit ressembler, comment se fait-il? On n'a pas pu découvrir que c'était très désavantageux pour les enseignants, on n'a pas pu découvrir que les gens qui ont un régime autonome, qui est différent des régimes spéciaux, verraient ça d'un œil un peu particulier, on n'a pas pu découvrir tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a oublié de se dire pendant ces fameux 18 mois de concertation?
Alors, effectivement, on est tous un peu surpris, hein, parce que le gouvernement est arrivé dès le départ en nous disant « mais on a une idée, elle est extrêmement simple, et on va faire un régime universel ». Et effectivement, on a vu assez vite venir qu'en réalité, c'était un sujet extrêmement complexe. La sensibilité du sujet était connue, parce qu'il y a eu des tentatives de réforme quand même déjà depuis très longtemps. Donc, effectivement, il semblerait que ce qui a été négligé, hein, comme le disait Raymond Soubi à l'instant, c'est ce travail sur les transitions, c'est-à-dire sur le passage, et c'est qu'on a travaillé que sur finalement la chute, hein, le point d'arrivée, la cible, et qu'on a complètement laissé de côté cette question des transitions, qu'on a totalement sous-estimé. Donc ça laisse plutôt penser à des discussions un peu technocratiques, hein, entre des personnes qui sont finalement assez loin du terrain et qui ont sous-estimé l'angoisse que ça pouvait générer, et pensant que quand on donne l'image d'une cible claire, explicite, facile à faire passer, eh bien ça allait être de nature à rassurer. Eh bien pas du tout, ça a eu plutôt tendance à angoisser et à faire peur, parce que ce qui fait peur, c'est le court terme, c'est comment on va assurer dans les prochaines années, et c'est pas tellement la vision à 10, 15, 20 ans qui est de nature à rassurer.
Yael Gauz,
une bataille qui est arrivée aussi, que certains macronistes de la première heure n'avaient pas vu venir, c'est paramétrique et systémique. On en a beaucoup parlé ici, quand au printemps, mars 2019, Agnès Buzyn, puis Édouard Philippe à l'Assemblée évoquent des mesures d'âge, là c'est la surprise totale, jusqu'à un Jean-Paul Delevoye qui menace de démissionner. On a oublié aussi à l'époque qu'en mois de mars 2019 arrivait sur la table le sujet censé être prioritaire dans le quinquennat, ça va revenir peut-être en 2020-21, c'est la dépendance. Comment financer la dépendance? Et il y avait une piste sur la table dans le rapport Libault qui était de dire il va falloir peut-être taxer les retraites pour permettre de mieux financer le grand âge. Et ça, on l'a un peu oublié, mais ça représente 9 milliards d'euros tous les ans jusqu'en 2030. Édouard Philippe, qui est responsable des finances publiques aussi et des comptes publics, il se dit, mais comment je fais pour arriver à financer tout ça d'ici à la fin du quinquennat? Comment je cherche? Donc arrive la question budgétaire qui vient tout perturber ensuite jusqu'aux incompréhensions actuelles, notamment avec des cédétistes de départ qui sont à l'Élysée, comme Philippe Grandjean, Jean-Paul Delevoye aussi très proche à l'époque avant d'avoir démissionné, Richard Ferrand, toute cette génération de macronistes récentes qui pensaient qu'on ferait la réforme systémique sans le paramétrique.
Et en même temps, là, donc désormais, si on essaie de faire un coup rapide, on a les enseignants qui a été chiffré entre 10 et 12, si je ne m'abuse.
10 milliards sur 15 ans.
Voilà, 10 milliards sur 15 ans. On est prêt visiblement à aller au-delà des fameux 1000 euros du minimum, donc ça aussi, ça fera monter la facture. Si on module l'âge pivot en fonction de l'usure professionnelle, ça aussi, ça fait monter la facture. Si on rend la décote provisoire, ça fait aussi monter la facture. Là aussi, moi, pardon de tomber de ma chaise en me demandant comment ces choses n'ont pas été un peu anticipées quand même, non? Les uns ou les autres,
comme cela vient d'être dit, tout ceci, ce sont des compensations données à des corporations qui s'estiment lésées dans la réforme, et ça vient de ce que le travail de préparation sur la transition, c'est-à-dire non seulement de regarder l'état final de la réforme, mais de dire qu'est-ce qui va se passer pour les contrôles de la navigation aérienne, pour les enseignants, etc. Qu'est-ce qu'ils vont gagner, qu'est-ce qu'ils vont perdre, qu'est-ce qu'on va devoir compenser, n'a pas été fait. Qu'il est fait maintenant, qu'il est fait un peu dans la précipitation et sous l'effet de la pression des mouvements sociaux, à telle enseigne qu'il y a un membre du gouvernement tout récemment qui a dit quand on fait une grande réforme, il faut savoir investir. Donc c'est que tu ne remarquable reconnaissance qu'elle va coûter très cher.
Voilà, c'est comme quand on joue, il faut savoir perdre beaucoup pour pouvoir gagner beaucoup derrière. Rémi Bourguignon, avant qu'on retourne au standard.
Oui, mais ce type de réforme, ça se fait déjà à budget constant, c'est compliqué. Avec un budget en diminution, c'est impossible. Donc qu'à la fin, on se retrouve avec une réforme à budget qui augmente, c'est pas aberrant. Le problème que ça va poser, il est plutôt à moyen terme sur la gouvernance du futur système, parce qu'on va lui mettre des paramètres au départ qui vont faire qu'on n'aura pas l'équilibre financier qui était demandé. Et par contre, charge par la suite aux partenaires sociaux, si effectivement ils ont un rôle à jouer dans la gouvernance du futur système, de venir corriger ça. Et ça va être extrêmement compliqué pour eux dans les années qui viennent.
Les Blanches nous appellent au standard. Bonsoir Blanche.
Bonsoir madame.
Pardon de vous avoir fait patienter si longtemps. On vous écoute Blanche.
Il n'y a pas de problème. J'avais une idée financière justement. On demande aux ouvriers de participer à leur retraite. Ok, d'accord. Mais il me semble qu'il y a des exonérations patronales. Est-ce que ça ne serait pas une idée de supprimer les exonérations patronales de façon à ce que les patrons participent autant que les ouvriers? Ça serait une idée financière, non?
Eh bien écoutez, on va poser la question, mais je crois savoir que les patronats participent aussi au financement des retraites.
Et oui, les entreprises participent, cotisent pour les retraites, comme les salariés cotisent pour les retraites. Donc elles ne sont pas vraiment, sont même pas du tout exonérées de l'effort pour les retraites.
Alors est-ce qu'il y a quand même on va dire une sorte de silence du patronat en ce moment? On les voit sortir du bois de temps en temps quand on parle d'élever les charges patronales justement, parce que ça a été mis un moment sur le tapis, notamment par la CFDT, mais finalement assez absente ce débat, non, Yael Gauz?
Aujourd'hui, on a Geoffroy Roux-de-Bézieux, donc patron des patrons, qui nous dit qu'il n'est plus arc-bouté sur la question de l'âge pivot. Ça, c'est un léger bouger de rentrée là, sociale pour le MEDEF. Mais qu'est-ce que ça cache derrière? L'idée que si on accepte de ne pas s'arc-bouter sur l'âge pivot, ça veut dire que vous nous laissez tranquille sur la pénibilité. Vous ne revenez pas à la charge sur les critères Hollande de pénibilité. On n'en veut pas. Donc c'est peut-être ce deal-là qui se noue avec le MEDEF. Mais après, Édouard Philippe, il n'a pas complètement fermé la porte à une hausse des cotisations patronales. Il a dit pas de forte hausse, mais ça peut être une petite hausse. Ça va être l'objet aussi des discussions à venir.
Sur la pénibilité, Rémy Bourguignon, qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on discute surtout réellement demain? Qu'est-ce qui a été enlevé que les syndicats souhaiteraient voir revenir sur la table, notamment en termes de port de lourdes charges, de posture, autant de choses qui ont été retirées précédemment.
Oui, qui ont été retirées de ce qui s'appelait le compte pénibilité qui avait été mis en place il y a quelques années et qui reposait sur, alors si je ne dis pas de bêtises, 6 critères, je crois, c'est ça ?
10 critères. On a retiré 4. Voilà.
On a retiré les charges lourdes, les postures, les vibrations
et l'exposition des produits
chimiques.
Parce qu'ils sont réputés difficilement mesurables, c'était une usine à gaz, comme dit le patronat, et donc ça a été retiré au moment où on a réformé ce compte pénibilité. Et donc aujourd'hui, ce que demandent les organisations syndicales, c'est peut-être qu'on les réintègre de manière à ce qu'on mesure toute la pénibilité du travail et pas uniquement la pénibilité qui va toucher les professions plutôt qualifiées de type cadre, etc., sur les questions de stress au travail.
Mais est-ce que c'est une ligne rouge, ça, par exemple? Ou est-ce que c'est au fond facile pour le gouvernement de réintroduire ces 4 critères de pénibilité?
Il ne peut pas le faire parce que c'est lui-même qui l'a retiré. C'est l'un des premiers actes du quinquennat Macron.
Des ordonnances travail.
Et des ordonnances travail, on en a beaucoup parlé. Ouais. Et donc les réintégrer maintenant, c'est reconnaître qu'on s'est trompé au début du quinquennat. C'est même politiquement pas assumable. En revanche, on peut trouver 36 solutions sur la pénibilité, qui est un sujet effroyablement compliqué, ce qui d'ailleurs pose un problème aux entreprises, qui pourra donner des satisfactions aux syndicats, mais pas celle de réintégrer les 4 critères qui ont été sortis.
Maxime Etapoy nous demande ceci. Est-ce que la stratégie d'isoler SNCF et RATP autour de leurs régimes spéciaux est une stratégie qui, à terme, peut porter ses fruits? Qui peut répondre à ça?
Oui, elle peut porter ses fruits. Mais jusque-là, puisqu'en effet, il y a une certaine hostilité dans l'opinion aux régimes spéciaux. Et clairement, le gouvernement a un discours contre les régimes spéciaux. Donc sa réforme, quelque part, est bonne parce qu'elle est contre les régimes spéciaux. Avec un effet pervers, c'est que les gens qui sont dans les régimes spéciaux et qui, justement, sont en grève, se sentent agressés et donc d'autant moins enclins à arrêter leur mouvement. C'est une sorte de critère politique. D'autant que les régimes spéciaux, je parlais SNCF et RATP, voient les concessions qui sont faites à d'autres catégories pas critiquer elles. Personne ne vous parle, par exemple, des contrôles de navigation aérienne.
Non, ni des policiers.
Donc, c'est une sorte de marqueur politique. Politique, oui, mais qui n'est pas très habile socialement dans la situation de ces entreprises.
Mais c'est pour ça que la gauche et les gauches en ce moment vont d'âgé en âgé se montrer. Jean-Luc Mélenchon sur une raffinerie bloquée ce matin. Vous avez vu aussi Olivier Faure se déplacer sur des âgés juste avant Noël. Ça va continuer. Vont au contact de ces agents RATP ou SNCF en grève, en les transformant quelque part en héros, H-E-R-A-U-T, de la cause qu'ils portent. C'est-à-dire, vous êtes aujourd'hui ceux qui portaient pour les autres Français, la grève par procuration.
Oui, sauf que c'était
95.
Mais Rémy Bourguignon, ça marche. Est-ce que ça marche toujours, la grève par procuration? Enfin, est-ce que c'est pas saut 95, justement?
Oui. Alors, ça revient sur la question de l'opinion. Est-ce qu'effectivement, l'opinion se reconnaît dans ce mouvement et voit les organisations syndicales de ces entreprises à statut comme finalement des représentants de l'ensemble des Français? C'est pas sûr. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que même quand les Français sont plutôt favorables au mouvement, c'est pas pour la défense des régimes spéciaux. La question, c'est si la majorité des Français, ou s'il y a une majorité qui se sent perdante, peu importe l'opinion qu'ils ont des régimes spéciaux, ils y voient des alliés de fait pour résister à cette réforme.
Mais Yael, pardon, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Est-ce que la gauche politique est en train de retrouver des couleurs et du dynamisme avec cette guerre-là, si je puis dire?
Oui, mais en trompe-l'œil. C'est vrai qu'on assiste à des choses qu'on n'aurait pas imaginées depuis 2017 possibles, notamment des pétitions communes qui vont de Besancenot au Parti radical de gauche, en passant par le PS, des choses un peu nouvelles comme ça, comme ce meeting qui avait eu lieu juste avant Noël, le 11 décembre, novembre à Saint-Denis, si je ne me trompe pas, à Bourse du Travail, où là, pareil, sur la scène, il y avait des gens qui étaient réunis, qu'on n'avait pas vus ensemble depuis des années, mmh. même depuis 96, je crois, pour un meeting commun qui allait de Besancenot au Parti Socialiste. Le problème, c'est quand on gratte un petit peu le vernis, on voit que ça craque, parce que les uns et les autres ne disent pas la même chose. Les Insoumis ont leur propre contre-projet de retraite à 60 ans. Les socialistes ont fait la réforme Touraine, c'est compliqué. Europe Écologie Les Verts, ils collent en fait au discours de la CFDT, mais eux aussi essaient de capter un électorat plus centriste de centre-ville, qui n'est pas forcément complètement hostile à la réforme à point. Et puis vous avez les communistes qui veulent eux aussi durcir le mouvement, mais qui sont pas sur la même ligne que les autres. Enfin, voilà, c'est très compliqué d'avoir une contre-réforme unique de la gauche. Elle n'existe pas aujourd'hui, la contre-réforme unique.
Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Bienvenue Bruno, on vous écoute.
Bonsoir. D'abord, merci à France Inter pour ces émissions. Voilà. Donc, je voulais surtout dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un manque de communication précise pour bien expliquer aux gens que cette réforme des retraites est indispensable. Est-elle bonne ou pas bonne, mais elle est de toute façon indispensable pour pérenniser le système des retraites qui va dans le mur si on ne fait pas de réforme.
Merci pour votre remarque, Bruno. Rémi Bourguignon, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, Bruno? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses très contradictoires à ce sujet. Est-ce que oui ou non, le système des retraites, enfin c'est pas ce qu'avait l'air de dire le corps, va dans le mur sans cette réforme, en tout cas sans la réforme financière?
Non, si on est sur un plan strictement financier, non, la réforme ne s'impose pas. On l'a dit, il y a énormément de régimes, certains sont équilibrés, certains sont même excédentaires, d'autres sont déficitaires, donc on pourrait tout à fait continuer avec le même système en bougeant les paramètres sur chacun des régimes pour les équilibrer. Donc ça, c'est pas une question financière. Le changement, d'ailleurs, et c'est pas comme ça que le gouvernement l'a amené, quand il a amené l'idée de cette réforme, c'était dans une logique de justice, en dénonçant effectivement ces régimes spéciaux qui accaparaient une bonne part des régimes de retraite. Et donc c'était plutôt présenté sous l'angle de la justice sociale que sous l'angle financier. Sous l'angle financier, on pourrait continuer dans l'architecture actuelle. Elle est compliquée, elle n'est pas facile à piloter parce qu'il y a une gouvernance totalement éclatée, mais ce n'est pas impossible.
Une question de Didier Nogent-sur-Marne qui nous dit: qu'est-ce que serait une réelle victoire d'Emmanuel Macron et, à contrario, une victoire de la CGT? Et est-ce qu'au fond, pour le traduire un peu, arriver à la fin des régimes spéciaux, est-ce qu'au fond, rien que ça, s'il y parvient, c'est la victoire qu'il lui faudrait pour être toujours le réformateur? Faut-il qu'il aille même encore plus loin? À quel moment il pourra dire victoire, lui, Yael Gauz?
Ça dépend du point de vue de celui qui observe l'action politique d'Emmanuel Macron, évidemment. Parce que s'il y a des régimes spéciaux, c'est aussi parce qu'il y a des métiers particulier et que c'est lié à une histoire, que c'est lié aussi à des conditions de travail. On pense évidemment aux danseurs de l'opéra.
Ah
ben
on est d'accord, on est d'accord avec ça, mais dans sa manière de penser à lui, est-ce que au fond se dire ça, je peux l'accrocher, c'est une réforme qui est faite et je l'ai faite. Il y a plus de régime spéciaux.
Quand Xavier Bertrand qui envisage de se présenter en 2022 attaque Emmanuel Macron sur son manque de courage et d'audace réformatrice début décembre. Là, je peux vous dire qu'effectivement, à l'Élysée, on attend au tournant cette droite qui essaie de se reconstruire difficilement d'ici à 2022 pour leur dire, regardez, moi j'ai fait en 3 ans ce que vous n'avez jamais fait en 20 ans de pouvoir.
Raymond Soubi, est-ce qu'il faut accrocher ça au tableau de chasse? J'y mets 1000 guillemets, ne me harcelez pas de coups de mail, je vous en supplie. Mais est-ce qu'il doit accrocher ça à son tableau de chasse pour que politiquement, il puisse poursuivre son quinquennat dans de bonnes conditions?
Je crois que c'est l'une de ses intentions, en tout cas. Qu'il le fasse, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est son intention, avec un paradoxe. C'est qu'il en mars 2018, il a abrogé le statut des cheminots, qui est aussi un élément central des régimes spéciaux. Mais il ne l'a abrogé que pour les nouveaux entrants, ce qu'on appelle la clause du grand-père. Mmh. Et là, il ne l'a pas fait. Et quelque part, si vous voulez un avis tout personnel, il l'aurait fait, comme il l'a fait il y a 14 mois, il n'en serait pas du tout là où il en est aujourd'hui. Mais c'est un avis.
Oui, mais on aurait dit qu'il n'a pas fait la réforme. On aurait dit qu'il a...
Non, on aurait dit qu'il aurait fait la réforme, mais trop tard.
8 secondes, Rémi Bourguignon, là-dessus pour...
Oui, non, c'est, mon avis, c'est pas secondes. Simplement d'avoir les régimes spéciaux, mais c'est vraiment d'aller vers ce régime universel. C'est ça la clé, hein, plutôt.
Donc, plus les points, en fait, que les spécificités. Merci beaucoup. Exactement. Merci à tous pour vos nombreuses questions également. Portez-vous bien sur France Inter.